La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
La tête.
Au sommaire de notre club cet après-midi, le jeu d'échecs rend-il fou? Une conférence, un spectacle sur comment le monde a été créé et enfin une encyclopédie sur les plantes alimentaires pour comprendre quelles sont les plantes justement qui se trouvent dans nos boissons et nos assiettes. Je vous présente notre plateau d'invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, retour sur la campagne présidentielle de 2017 avec la lorgnette du Big Data.
Oui, des chercheurs du CNRS et de l'EHESS ont passé près de 60 millions de tweets de la campagne à la moulinette. C'est le Politoscope et on découvre les résultats dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise ce club, préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Villard sur France Inter.
Et bienvenue à nos invités du club cet après-midi, Albin Dalborgo, Jean-Marc Bonnebido, Michel Chauvet et Sophie Bécherel. Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Bonjour.
Albin Dalborgo, vous enseignez le jeu d'échecs et vous publiez au Pommier Échecs, le jeu qui rend fou, point d'interrogation. À quelle époque est né ce jeu qui fascine toujours autant, d'ailleurs en particulier ceux qui n'y jouent pas?
Eh bien, personne n'est d'accord sur le sujet. La version la plus souvent acceptée est celle que c'est né en Inde. Ouais. Vers le 5e siècle, mais il y a d'autres prétendants. Il y a aussi les Chinois qui prétendent que c'est né chez eux. Donc.
Ouais, et, les règles n'ont pas changé.
Ah si, elles ont été internationalisées seulement au 18e siècle.
Ouais.
Donc les règles étaient très différentes de pays à un autre pendant très longtemps.
Vous êtes passionné, vous enseignez le jeu d'échecs et on va rentrer justement dans les coulisses de ce jeu avec vous dans un instant. Sophie Bécherel, votre coup de cœur du vendredi pour nous.
Pour le premier matin du monde, une conférence-spectacle que vous, Jean-Marc Bonnebido, avez imaginé. Vous êtes astrophysicien et vous nous parlez de la naissance de l'univers.
Exactement. On s'est posé la question, comment s'est créé le monde ? Et on s'est posé la question, comment a-t-on imaginé que c'était créé le monde dans les autres parties du monde également?
Voilà, c'est une petite question.
Une question, on a été un tout petit peu ambitieux.
Voilà,
c'est ça le jeu.
Et vous allez jouer demain et dimanche.
Voilà, exactement.
À quel endroit exactement?
Au Théâtre du Soleil.
Très bien, on va en parler avec vous dans un instant. Et puis Michel Chauvet sera avec nous, agronome et ethnobotaniste. Vous publiez cette semaine aux éditions Belin l'encyclopédie des plantes alimentaires pour tout savoir justement sur ces plantes, 700 espèces du monde entier avec 1700 dessins. Qu'est-ce qu'on appelle une plante alimentaire exactement, qu'on part sur de bons pieds là?
Moi j'appelle plante alimentaire les plantes que des groupes humains ont choisi délibérément de consommer, soit parce qu'ils les trouvaient bonnes ou qu'elles donnaient un bon rendement, etc. Alors que par comparaison, si vous voulez, une plante comestible, elle est comestible dans la mesure où elle n'est pas complètement toxique. Mais parmi les plantes comestibles, il y a des plantes de disette ou de famine, mais disons qu'on délaisse quand on peut manger autre chose.
Et vous en avez même cueilli dans le jardin de la maison de la radio, alors des plantes, parce que je vois là avec cette plante en particulier.
Oui, dans les espèces vertes, il y a plusieurs plantes sauvages qu'on peut consommer, mais là j'ai fait mon marché juste à côté de la maison de la radio et j'y ai découvert plusieurs espèces qui sont assez rares.
Ah tiens.
Et celle-là qui est la Brede Mafane, c'est une plante originaire du Brésil, mais qui est surtout consommée par les Malgaches et qu'on appelle un peu le cresson. C'est vraiment très, très, très particulier.
Et vous l'avez trouvé dans le 16e arrondissement de Paris. C'est quand même fou, ça. Hein.
Ah, on trouve pas mal de choses. Maintenant, on trouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup une espèce de mode des produits exotiques qui fait que de nombreux producteurs se lancent.
On va plonger au cœur de votre encyclopédie donc au cours de ce club. L'émission étant enregistrée cet après-midi, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme tous les jours. Voilà, on débriefe la campagne présidentielle 2017 au regard des réseaux sociaux. Axel, aujourd'hui, c'est la une de la science.
Oui, ça s'appelle le Politoscope, Mathieu. C'est un outil d'analyse en temps réel du réseau social Twitter que des chercheurs du CNRS et de l'EHESS ont mis au point et qu'ils ont ensuite fait tourner sur plus de 60 millions de tweets pendant la campagne. Les résultats sont aujourd'hui publiés dans la revue Plus One. Ils sont à la fois instructifs et sont aussi concernants. Pour en parler, on reçoit par téléphone celui qui a piloté ce politoscope. C'est vous, David Chavalarias. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur pour le CNRS et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Alors peut-être pour commencer, pour ceux qui sont étrangers à la fois au réseau Twitter et à l'analyse de données, expliquez-nous ce qu'est votre politoscope et ce que vous lui avez demandé de faire.
Alors ce projet est parti de la question de savoir si on pouvait qualifier une campagne présidentielle au niveau de l'activité des militants politiques à partir des données des réseaux sociaux, et on s'est concentré sur Twitter pour plusieurs raisons, notamment parce que les données sont totalement publiques. Et donc, ce projet qui a été initié à la fois dans un projet de recherche et une collaboration avec la Cité des sciences et de l'industrie, avec donc pour but de savoir si, en collectant mois après mois, en amont de la campagne, les échanges entre les personnalités politiques, on pouvait dire quelque chose des communautés politiques, de la manière dont elles se forment, des alliances qui se font, etc. Et donc, on a suivi un peu plus de 2500 personnalités politiques élues et responsables de partis, et tous les échanges qui se produisaient autour d'elles, les mentions, etc., sur Twitter, donc qui est un média de microblogging où les gens s'échangent des messages. On a montré donc en étudiant ce cœur de communauté qu'échanger avec ce cœur de communauté à peu près 2,4 millions de personnes pendant la campagne, donc qui ont produit ces 60 millions de tweets, et en les analysant, on a montré qu'il était possible non seulement de reconstituer les communautés en ligne et qu'elles reflétaient très bien ce qui se passait hors ligne, avec notamment toutes les alliances, des choses qui se passaient parfois en coulisses, mais aussi on a étudié d'autres caractéristiques, comme par exemple la diffusion de fausses nouvelles ou la structure des communautés.
Oui, on entend souvent que les réseaux sociaux isolent les communautés et ne favorisent pas forcément les débats. Est-ce que vos analyses confirment ce constat-là ?
Alors, en partie, c'est-à-dire que ce que l'on observe, en tout cas dans le cadre politique et sur Twitter, c'est qu'on a des communautés fortement structurées, où les gens s'échangent des messages avec des idéologies concordantes entre eux, et vont moins relayer les messages qui viennent d'autres communautés. Relayer au sens promouvoir les idées, alors c'est un peu une tautologie. Par contre, ce que l'on observe, c'est que quand même les communautés s'échangent entre elles des critiques. Et si on se restreint à un certain type d'informations, que sont les fausses nouvelles, là, effectivement, on observe un très fort effet d'écho, qu'on appelle ça effet d'écho, c'est-à-dire que là, il y a des informations qui circulent quasiment en vase clos au sein de communautés, et c'est le cas notamment pour les fausses informations qui vont se concentrer sur quelques communautés. On va avoir des gens qui vont se replier sur leur communauté et échanger entre eux des nouvelles pour se convaincre que c'est les bonnes, alors qu'en fait, elles sont fausses. Et donc, l'effet des fausses nouvelles a un effet polarisant plus que tout autre type de nouvelles dans les espaces sociaux numériques. Donc ça, c'est un effet qu'on voulait voir et qu'on a démontré, effectivement.
Et au sujet des fausses nouvelles, vous en avez vu passer beaucoup parmi ces 60 millions de tweets ?
Alors ça, c'était une des surprises de l'étude. Alors il faut bien voir comment on les a trouvées, ces fausses nouvelles. On a cherché d'abord des listes de fausses nouvelles, et la seule source documentée qu'on a trouvée, c'est la source qui a été produite par le journal Le Monde dans le projet Les Décodeurs. Pour nous, c'était au début un petit problème, parce qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus de diversité dans les producteurs de fausses nouvelles. On n'en a pas trouvé, donc on s'est restreint à cette liste-là. Donc ce que je veux dire, ceci pour limite. Ceci étant, donc on a une liste de fausses nouvelles qui est très bien documentée, où il y a à chaque fois une preuve de la raison pour laquelle elle a été classée comme fausse nouvelle. À partir de ça, on a observé qu'il y avait moins de 1 tweet sur 10 000 qui comportait une nouvelle comme étant catégorisée comme fausse par les décodeurs. Ça reste une proportion relativement raisonnable de fausses nouvelles qui circuleraient dans l'espace politique numérique de Twitter.
Une dernière question. On commence à analyser les réseaux sociaux, et c'est important, ça agit dans nos démocraties. Est-ce que vous pensez qu'ils vont modifier nos systèmes de vote ? Est-ce que ça va amener à une réflexion autour de la manière dont on élit nos dirigeants ?
Ça, c'est des réflexions plutôt personnelles, mais qui sont partagées notamment dans un collectif qui s'appelle Mieux Voter, qui appelle à changer le système de vote. Ce qui se passe, c'est que les nouveaux médias numériques exploitent des vulnérabilités de notre système de vote, dont on sait qu'il est imparfait depuis très longtemps, notamment qu'il est sujet à la manipulation, il y a la question du vote utile. Et donc, en fait, pour moi, le système de vote actuel est devenu très très instable, du fait notamment des nouveaux modes de circulation d'informations sur les réseaux sociaux. Et on ne pourra pas garder ce système de vote si on veut éviter des choses comme un Brexit ou une élection de Trump, etc. Et il y a des systèmes de vote alternatifs qui existent, notamment par exemple le jugement majoritaire, et qui sont bien moins manipulables et bien moins sensibles à l'augmentation de la polarisation des opinions.
Et il faudra qu'on prenne le temps d'en parler plus longuement avec vous, parce que c'est évidemment un sujet d'importance. En attendant donc Politoscope, cette étude est parue dans la revue PLOS ONE. Merci David Chavalarias d'être venu nous en parler à la Une de la Science aujourd'hui. Merci Axel.
À bientôt.
À bientôt. Allez, dans un instant, le club de la tête au carré.
To shiver, and I wanna run to the edge of the earth with you, and I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. It's like you got them superpowers. You make me bloom just like a flower. Devour me, you. Better when we're together. Whatever you say, I just wanna stay with you forever. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. Run to the edge of. It's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. And I want to run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. Yeah, I want to run to the edge of the earth with you. It's perfect with you.
You, c'était Odetta Hartmann.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Et cet après-midi, dans notre club, le jeu d'échecs rend-il fou ? Question posée donc dans l'émission, une conférence-spectacle sur comment le monde a été créé, puis enfin une encyclopédie sur les plantes alimentaires. Et on va commencer avec vous, Albin Dalborgo, vous êtes enseignant donc de jeu d'échecs, joueur expérimenté, puisque vous avez représenté la Belgique dans des compétitions internationales, et donc vous publiez ce livre, Échecs, le jeu qui rend fou, aux éditions Le Pommier, avec des illustrations de Pascal Lemaître, qui d'ailleurs est joueur là autour de la table. Sophie Bécherel, est-ce que vous jouez aux échecs?
Non, je connais les règles, je peux jouer, mais je n'appelle pas ça jouer.
Michel Chauvet?
Non plus, je me contente des sudokus.
Bon, Jean-Marc Bonnet-Bideau?
Oui, moi j'ai joué un petit peu, mais un petit niveau, vraiment un petit niveau.
Petit niveau. Oui. Et moi pareil, je ne joue pas aux échecs, malheureusement, ça m'a toujours fasciné.
C'est passionnant. Oui,
oui. Alors, je ne sais pas si c'est le côté justement au départ scientifique qui peut faire peur, le côté faut être bon en maths pour bien jouer aux échecs. Comme j'étais nul en maths, je ne me suis peut-être jamais aventuré là-dessus.
C'est bien l'objet de mon livre, il y a beaucoup de choses qui font peur. Et à tort, je crois qu'il y a, beaucoup d'idées reçues autour du jeu d'échecs, la folie en étant. Oui. Merci Stephen Zweig, on va reparler je crois.
Oui.
Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font peur, et en réalité, la science permet justement de détricoter ces idées, et de dédramatiser, de démystifier ce jeu, qui a beaucoup de vertus, mais pas celles qu'on lui attribue.
On va écouter justement un extrait d'une lecture du joueur d'échecs de Stephen Zweig, extrait d'une émission sur France Culture en 2001.
Je ne sais si vous avez réfléchi à l'état d'esprit où vous plonge ce roi des jeux. Le hasard n'y a aucune part. L'attrait du jeu d'échecs réside tout entier en ceci que deux cerveaux s'y affrontent. L'intérêt de ces batailles intellectuelles vient de ce que les Noirs ne savent pas comment vont manœuvrer les Blancs, et qu'ils cherchent sans cesse à deviner leurs intentions pour les contrecarrer, tandis que de leur côté, les Blancs essayent de percer à jour les secrètes intentions des Noirs et de les déjouer. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même, cela équivaut à vouloir marcher sur son ombre. C'est à cette absurdité que le désespoir me fit tendre. J'aurais eu peut-être une chance minime de m'en sortir si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier qui m'eût permis en quelque sorte de projeter les choses dans l'espace. Devant un échiquier avec de vraies pièces à déplacer, on peut donner un rythme à ses réflexions, se transporter physiquement d'un côté de la table à l'autre et considérer ainsi la situation tantôt du point de vue des Noirs, tantôt de celui des Blancs.
Voilà une lecture du joueur d'échecs de Stéphane Zweig, Albin Dal Borgo, pour évoquer donc ce thème avec vous. Le roi des jeux, rien que ça, hein, quand même. Vous voyez, ça, ça fait peur, par exemple.
Hein. Oui, bah, écoutez, Stéphane Zweig a participé à introduire la notion, à l'association de la folie et le jeu d'échecs. Ouais. C'est un livre qu'on m'a offert 5 fois dans ma vie.
Ah, bah oui. Plaisir,
ça me poursuit.
C'est ça. C'est tiens, peut-être je t'ai trouvé un petit livre qui va t'intéresser.
Voilà, qui va te surprendre.
Ouais. C'est ça.
Mais en fait, je n'ai jamais aimé ce livre, même si évidemment, ça n'a rien à voir avec les qualités d'écrivain Stéphane Zweig, ça va de soi.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, comme dans beaucoup d'œuvres romanesques ou bien de cinématographiques, je ne retrouve pas la réalité que je connais dans le monde des échecs. C'est-à-dire que, bon, très précisément, dans Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, il s'agit de quelqu'un qui est enfermé pour une longue période et qui ne fait que jouer aux échecs et contre lui-même. Et il en ressort en étant un grand expert. C'est impossible, en fait, parce que ce jeu, et c'est un de ses grands intérêts, s'apprend en se confrontant à la pensée d'autrui. Donc, ce qu'il n'a pas fait dans l'enfermement.
Ouais. Et, donc, il y a un biais pour vous, là, déjà.
Il y a déjà un biais. Mais bon, cela dit, ça, je comprends que ce livre ait marché. Mais bon, l'association avec... Donc, en fait, mon livre ne parle pas que de l'association avec la folie. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues sur le jeu d'échecs.
Absolument.
Et c'en est une, mais bon, je relève 35 questions qui peuvent faire...
Et elles sont toutes hyper intéressantes, même quand on joue pas justement, elles sont très intéressantes parce qu'on apprend beaucoup de choses. Vous avez aussi interrogé des spécialistes, des psychologues, il y a Boris Cyrulnik hein, par exemple qui intervient dans cet ouvrage, et vous ouvrez justement ce livre avec une anecdote au sujet des deux joueurs les plus connus au monde hein, Garry Kasparov et Anatoly Karpov. Kasparov disait qu'il y avait deux types d'adversaires dans sa vie, je vous cite, hein, Anatoly Karpov et les autres, hein, c'est ça.
Ouais.
C'est, vraiment, ils ont pas trouvé mieux pour jouer et trouver adversaire à leur taille.
Je crois surtout que c'était dans ce cas précis, je crois que c'était un hommage tardif, c'est-à-dire que ils se sont détestés toute leur vie, humainement et échiquiennement, puisque chacun voulait voler le rêve de l'autre. Ils ont été tous les deux champions du monde, ils ont chacun leur part du gâteau, mais il se trouve qu'à la fin de sa carrière, Garry Kasparov a fait de la politique
et Poutine. Hein.
Contre Poutine, ouais. Et il aboutit en prison, comme beaucoup d'autres. Et en fait, quand Karpov a appris ça, lui qui est plutôt conformiste politiquement, je crois qu'on peut le dire, il a voulu d'abord rendre visite à Kasparov. Il a été incarcéré quelques 5 jours, mais il a voulu lui rendre visite. Et il n'a pas eu le droit. Et il lui a transmis des magazines d'échecs via un garde, de manière officieuse. Et Kasparov a évidemment énormément apprécié ce geste. Et la suite de son discours à propos de Karpov a diamétralement changé. Avant, il le qualifiait d'une pièce de musée, pour dire que c'était lui le jeune et Karpov l'ancien. À partir de ce moment-là, il a été très élogieux sur Karpov. Il a reconnu que c'est grâce à Karpov qu'il est devenu le meilleur joueur.
Vous l'avez rencontré Kasparov en 2016.
C'est beaucoup dire, c'est-à-dire qu'il a fait une conférence à Paris en 2016.
Mais vous lui avez posé une question quand même.
Ah oui, ça oui, j'ai absolument voulu le rencontrer.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé ?
Alors, je lui ai demandé si... quel style de joueur serait Poutine aux échecs. Parce que bon, c'est un des aspects qui est développé dans le livre, c'est qu'on a chaque joueur a un style qui a probablement beaucoup de rapport avec sa personnalité. Et en fait, il a dit que il est probable que Poutine n'aime pas les échecs parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde.
La réponse est extraordinaire quand même. Hein.
Ouais.
Alors ça fait partie justement de ce qu'on apprend dans cet ouvrage avec la place des filles hein, justement, où leur consacrer un chapitre. Parce que c'est vrai, on se pose la question, tiens, est-ce qu'il y a des grandes joueuses d'échecs hein?
Ah oui, tout à fait. La meilleure, c'est Judith Polgar, une Hongroise qui a été top 10 mondiale. Alors il est vrai qu'il n'y a pas encore eu de champion du monde féminin, mais il y a de plus en plus. C'est un jeu qui se démocratise de plus en plus. Avant, ça se jouait uniquement dans les cours royales. Puis, ça s'est démocratisé. Bon, il y a quand pas si longtemps, il y a certains hommes qui voulaient faire croire aux femmes que c'était un jeu d'hommes. Hein. Bon, ça s'est complètement dépassé, évidemment. Il y a de plus en plus de filles qui jouent aux échecs. En France, la meilleure joueuse française, Marie Sebag, est une joueuse professionnelle et fait partie des meilleurs joueurs français. Voilà, Judith Polgar qui a été 8e mondiale. Voilà.
Donc, Sophie Bicherel.
Y a-t-il des parties mixtes ?
Oui, bah justement, oui, énormément. Et de plus en plus, il y a encore une séparation chez les jeunes en compétition garçon-fille, ce qui évidemment n'a plus de sens et ça tend à disparaître. Voilà.
C'est dingue que ça existe
encore. Oui, tout à fait, oui, c'est complètement. Oui, je suis d'accord avec vous.
Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Oui, non, c'est passionnant, surtout l'histoire Kasparov-Karpov, que ça vraiment.
On a tous suivi ça, quand même.
Oui,
hein,
sûr,
on a été marqués finalement par ce duo et ce duel.
Et puis ça a été vraiment porté à des intensités où tout le monde regardait le résultat de la journée. Hein. C'était vraiment dans les informations, quoi.
Alors, c'est vrai qu'on associe Albin Dalborgo, ce jeu, à l'intelligence, à la mémoire, à l'addiction, voire à la folie. C'est ce que vous disiez. Ce sont vraiment des lieux communs.
Ben, justement, la science apporte des éclaircissements. En ce qui concerne la mémoire, on associe souvent le jour d'échec comme quelqu'un ayant une mémoire hors du commun. Bon, parce que c'est vrai qu'il fait des choses impressionnantes dans son domaine. Par exemple, c'est impressionnant de voir un joueur d'échecs qui joue contre jusqu'à 30 personnes à la fois, en faisant des bons résultats. Un joueur d'échecs peut reproduire une partie qu'il a jouée le mois précédent, coup par coup. Oh, mais incroyable. En réalité, il peut même, le plus impressionnant, je crois que c'est le jeu, pour un non-initié, c'est de pouvoir jouer à l'aveugle. C'est-à-dire qu'un joueur expérimenté peut jouer sans regarder le jeu. Chaque case a un nom, il peut donner les cases, l'autre donne son coup, etc. Alors, ça paraît assez incroyable de l'extérieur, mais de l'extérieur uniquement, parce que chaque joueur expérimenté arrive à le faire. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup travaillé le jeu. C'est pas quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles. Alors, bon, la science, qu'est-ce qu'elle dit?
Oui.
En fait, déjà, une première expérience intéressante, c'est que si vous mettez un échiquier ici d'une partie réelle, si un joueur expérimenté le regarde pendant 10 secondes, il pourra vous reproduire l'endroit exactement de chaque pièce. Ça peut aller jusqu'à 25-30 pièces sur l'échiquier, mais si par contre, vous disposez 10 pièces aléatoirement sur un échiquier, le joueur d'échecs n'aura pas de résultats significativement supérieurs à un groupe contrôle, c'est-à-dire des joueurs non joueurs d'échecs. Donc en fait, c'est une mémoire extrêmement spécifique. Très concrètement, c'est la mémoire des configurations qui est très développée chez les joueurs d'échecs.
J'ai une question.
Michel Chauvet.
J'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de faire collaborer des autistes Asperger pour jouer aux échecs?
Ah, bah, très bonne question. Ouais. Tellement plaisir. J'en parle dans mon livre. Bien écoutez. Il n'y a pas d'études spécifiques sur le sujet, mais j'ai beaucoup d'expérience avec des personnes avec autisme dans mes cours. Alors bon, il faut savoir aussi que tout le monde le sait, l'autisme a beaucoup de formes, donc on peut pas faire de généralité, mais j'ai constaté pas mal de choses intéressantes dans mes cours, et j'espère qu'il y aura des expériences scientifiques sur le sujet, c'est-à-dire que la particularité des gens que j'ai eu l'honneur de recevoir à mes cours, ils passaient d'un plein investissement à des absences. Voilà. Donc en fait, dans leur plein investissement, ça pouvait être très impressionnant, leur réflexion. Et puis, ça pouvait cohabiter avec des oublis très étonnants aussi. Voilà. Alors, le jeu d'échecs, je pense, développe l'attention, la concentration et aussi sa permanence. Donc, je pense que c'est un premier point qui peut être intéressant.
Oui. Est-ce que ça peut faciliter les relations, justement, chez des enfants autistes?
Oui, exactement. Hein, ouais. C'est-à-dire que...
Ça, vous l'avez observé, vraiment?
Oui, je l'ai observé. C'est-à-dire que, comme la plupart d'entre eux ont des problèmes avec... ils ont des problèmes avec les codes de communication. Ils n'ont pas de problème avec les codes échiquéens. Donc, en fait, c'est un relais, c'est un effet facilitateur. Donc,
ouais. Et chez les ados? Parce que pareil, hein, vous travaillez, vous enseignez dans un collège parisien, tout un programme pédagogique, il y a aussi des ados en difficulté qui jouent aux échecs. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets aussi notables?
Oui, je travaille dans plusieurs collèges, mais dans l'un d'eux a un programme de pédagogie active où des adolescents en difficulté scolaire sont retirés 6 semaines du cursus classique et on leur propose des activités comme le jeu d'échecs, mais bien d'autres choses, philosophie rap, des choses, théâtre en anglais, des choses comme ça. Donc pendant 6 semaines, on propose tout ça. Et alors oui, on a observé des résultats intéressants. Alors, il serait faux de dire que ça marche avec tout le monde. Mais oui, certains adolescents ont découvert le plaisir de la concentration sans qu'on les y oblige. Voilà, j'ai eu des silences dans ma classe assez inattendus, comme ça, mais sans l'avoir demandé. Et oui, on a constaté chez certains une augmentation des résultats scolaires.
Sophie Bécherel.
À l'heure où on nous dit que les intelligences artificielles dépassent les nôtres, en particulier dans ces jeux de stratégie, est-ce qu'il y a encore un plaisir à jouer avec, puisque vous venez de nous dire qu'en fait, le jeu d'un joueur reflète sa personnalité. Or, une machine n'a pas de personnalité.
Ah, c'est très intéressant comme question. Alors oui, je traite aussi de ça. C'est-à-dire que elle a sa personnalité, la machine, finalement.
Ah, Kasparov.
Parce qu'en fait, quand la machine, il n'y a plus de match entre les meilleures machines et les humains. Les machines ont complètement dépassé les humains. Mais en fait, à l'époque où les hommes pouvaient encore défier les machines malgré leur capacité de calcul supérieure, Kasparov avait quand même, par exemple, fait une liste de caractéristiques, finalement, de la machine. Par exemple, la machine n'a pas peur. Voilà. Donc, on essaie de s'adapter à son adversaire. La machine n'a pas peur, donc les coups spéculatifs ne marchent pas, par exemple. Vous voyez, donc elle a sa personnalité aussi, finalement. Et ses défauts dans sa personnalité, puisque voilà, les coups peut-être un petit peu plus intuitifs sur le très long terme ont posé des problèmes plus longtemps aux machines. Voilà. Mais la machine ne tue pas le jeu parce que il y a trop de possibles. La machine n'est pas encore arrivée au bout du jeu, dans le sens où elle n'a pas déterminé quel est le meilleur coup après chacun d'entre eux. Mais même si elle arrive à le faire, ça représente des données tellement immenses que l'être humain ne peut rien en faire, finalement. Donc,
le cerveau humain reste encore très fiable, hein, finalement, par rapport à tout ça. Et puis, il y a plein de questions passionnantes. Il faut lire cet ouvrage, Échec, le jeu qui rend fou. C'est aux éditions Le Pommier. On apprendra, par exemple, que l'artiste Marcel Duchamp était un excellent joueur, hein, de haut niveau d'échecs. Allez, vous restez avec nous, Albin Dal Borgo. Dans un instant, on part au théâtre. Amour, et c'était Rameau.
Pourquoi fait-il si noir ?
Au commencement des commencements.
Au commencement ?
À l'origine des origines.
C'est toujours la nuit.
Il n'y avait rien.
Le club, sur France Inter.
Toi-même, protista, chaos genet. Autarpeta, gaia orusternos. Atanaton, hoieco sicareni poentos olum.
Une cosmogonie en grec, Sophie Becherel, pour parler de votre coup de cœur aujourd'hui.
Hein,
oui, c'est beau.
Alors, ce serait mentir d'appeler ça un coup de cœur dans la mesure où je n'ai pas vu cette conférence spectacle qui sera jouée demain et après-demain. Ouais. Néanmoins, nous avons fait confiance à la grande expérience de Jean-Marc Bonnevido pour vulgariser, médiatiser, transmettre le savoir de haut niveau à des publics profanes pour se dire que ça devait être très, très intéressant. C'est donc une forme de récit scientifique pour des non-scientifiques, pas une conférence, pas un récit théâtral. C'était quoi, au fond, votre envie, Jean-Marc Bonnevido ?
Alors oui, l'envie, c'était de parler de la science autrement. Alors, on se pose, beaucoup de scientifiques se posent cette question-là. Et il se trouve que j'ai des accointances avec des gens dans le théâtre, notamment avec un lieu de formation qui est à la Cartoucherie de Vincennes, qui forme des comédiens à des arts venus d'ailleurs que de l'Europe. Et immédiatement, en fait, est venue cette idée d'essayer de raconter les créations du monde, mais pas seulement celles que nous connaissons aujourd'hui, qui est notre récit d'aujourd'hui, qui est très important, mais de le mettre aussi en rapport avec les récits qui avaient précédé.
Donc vous êtes astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique. Donc en gros, c'est la cosmologie associée à des cosmogonies ?
Exactement. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, et c'est intéressant parce que moi-même j'y ai découvert beaucoup de choses, prenons notre récit, il s'appelle le Big Bang. On peut le raconter, et je le raconte en étapes très simples. On commence par le vide, après le chaos, après la matière. Vous voyez, des choses, des mots-clés extrêmement simples qui décrivent ces étapes vraiment très précises que décrivent la science moderne. Eh bien, tous ces mots sont en écho avec ce qui a été intuitivement développée dans d'autres parties du monde, avec d'autres formes de récits, effectivement, mais qui parlent aussi de cette création du monde.
Et ça se rejoint, alors ça se ressemble beaucoup.
Bien sûr. Je veux prendre le vide, par exemple. Le vide, dans la philosophie chinoise du taoïsme, qui est la source principale scientifique chinoise, c'est l'élément essentiel. L'univers commence par le vide. Et donc, dans le Big Bang, l'univers commence effectivement par le vide quantique. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la lumière, par exemple, la lumière, elle jaillit un jour de l'univers, 300 000 ans après le début de l'expansion. C'est la première lumière de l'univers. Et puis ensuite, l'univers va redevenir sombre. Et puis, elle se rallumera quand les étoiles s'allumeront de nouveau, mais bien, bien plus tard. Eh bien, il y a donc un combat entre la lumière et l'obscurité. Et ça, c'est raconté en Perse ancienne, dans le Bundaïsme, qui est un ouvrage qui a été conservé, qui nous raconte tout ça. Alors, évidemment, c'est pas des discours scientifiques que nous mettons en face du Big Bang, mais c'est simplement ces discours humains qui portent une parole qui nous parle encore et qui sont les racines de notre savoir. C'est surtout ça qu'il faut réaliser. C'est-à-dire, c'est effectivement de là que nous sommes partis, ayant accumulé tout ce que nous pouvons le savoir. C'est bien toujours cette image des nains sur les épaules de géants. C'est ça dont il s'agit. Nous pouvons penser le monde aujourd'hui grâce à tout ce qui a été pensé hier. Et je trouve qu'on oublie beaucoup trop tous ces récits, surtout qui sont d'un impact poétique très très fort. Parce qu'ils sont écrits dans une langue particulière à chaque culture et qui véhiculent toutes ces notions qui finalement sont plus intuitives que scientifiques. Mais la science, c'est quoi finalement? Quand les Chinois ont découvert le magnétisme, ils n'ont écrit aucune équation, mais ils ont fabriqué une boussole. Pour moi, c'est une démarche scientifique. Et donc, si vous voulez, on est omnubilé par nos équations, nos lois. On oublie que le monde a été discuté depuis la nuit des temps. Et on a voulu, à travers ce spectacle, mettre bien en parallèle notre démarche actuelle, puisqu'elle est très importante pour nous, mais la mettre en parallèle avec d'autres démarches qui nous apparaissent, du coup, je pense, bien plus présentes quand on les évoque, et notamment on les évoque aussi à l'aide d'évocations visuelles pour que les gens rentrent un petit peu dans chaque culture.
Alors voilà, je disais, ça n'est pas une conférence, ça n'est pas une pièce de théâtre, c'est un récit-spectacle. Donc finalement, vous êtes sur scène et puis une comédienne.
Voilà, la comédienne Lucia Bensasson, qui est une ancienne comédienne du Théâtre du Soleil, effectivement, est là justement pour lire des textes, les textes authentiques que nous avons. Donc nous, c'est pas les contes et légendes, voilà, ce que je voudrais tout de suite dire, c'est pas contes et légendes de l'univers. C'est, on part de textes qui ont été écrits il y a bien longtemps, qui on a conservés par miracle.
De six régions du monde.
De six régions du monde qui sont la Chine, l'Inde, la Perse, la Grèce, les Dogons au Mali et les Mayas. Alors on aurait pu en faire plus, hein, mais je trouvais que c'était une espèce de mélange comme ça. Et tout d'un coup, on est habité par tous ces gens qui nous ont précédés. Enfin, c'est ça qu'on a cherché à transmettre dans ce spectacle. Et effectivement, moi, je raconte l'histoire du Big Bang. Alors, je fais des petites digressions scientifiques pour les gens apprennent un petit peu aussi de la science un peu. Mais j'essaye d'avoir les mots les plus simples. Ensuite, il y a une évocation de la culture dont on parle. Et puis, il y a des textes authentiques. Et dans les évocations, justement, vous l'avez entendu pour la Grèce, on est revenu aux langues originelles. On fait parler les Dogons en Dogon, les Grecs en grec ancien. La voix était de Philippe Brunet, qui est un grand helléniste français. Et on a voulu vraiment évoquer aussi les langues, parce que c'est ça qui nous habite aujourd'hui.
Alors on va écouter un autre extrait, justement, les Dogons. Alors, pour les Dogons, quel est le récit de l'histoire du monde?
Alors le récit, eux, c'est le chaos. Parce qu'il raconte que tout part d'une graine extrêmement condensée et qu'elle se déploie en tourbillonnant dans l'espace.
Vous avez notre agronome ethnobotaniste qui frétille à vous entendre, Michel Chauvet.
Ah oui, moi je regrette de ne pas rester à Paris pour aller vous écouter, parce que ce que vous faites, c'est de l'ethno-astronomie ou je ne sais quoi. Oui. Mais en tout cas, oui, pour les Dogons, le mythe, c'est le mil qui est la graine de mil, qui est petites graines de céréales, qui est effectivement au centre de leur cosmogonie. Mais on pourrait dire que chez les Mésopotamiens, par exemple, c'était le ciel étoilé était comparé à un pommier plein de fruits. Enfin, on trouve plein d'allusions qui se réfèrent à des plantes, finalement.
Bien sûr, bien sûr. Et dans le cas du Mali et des Dogons, et bien évidemment, c'est ça. C'est-à-dire, tout part de la graine essentielle, primordiale, par analogie, évidemment, avec les graines que les Dogons consommaient. Mais après, on transpose le récit dans un imaginaire, et ça raconte finalement comme ça. C'est-à-dire, nous, dans le Big Bang, on dit, ben, le Big Bang naît du vide, après, il y a une énorme inflation. Ben c'est ça, c'est-à-dire chez les Dogons, c'est tout part de la graine, ça se déploie. Bon, nous on appelle ça inflation aujourd'hui, on sait d'ailleurs pas très très bien ce que c'est que l'inflation. C'est ça qui est intéressant, c'est de remettre aussi en question les discours scientifiques, le mettre en relativité, en se disant finalement, on n'est pas si sûr de nous, et puis dans 50 ans ça sera autre chose. Et ce retour vers le passé nous permet plus facilement de faire ça, je pense.
Mais l'astronomie qui est une science universelle finalement, qui a interrogé tous les hommes partout dans le monde et de tout temps, elle n'a pas donné des interprétations fausses ou des fausses mythologies ou des récits?
On peut dire que tout est à la fois un peu vrai et un peu faux. C'est surtout ça. C'est-à-dire, et encore une fois,
encore
notre discours scientifique, encore aujourd'hui.
Il y a des choses qu'on ne sait pas.
Voilà.
Le discours scientifique est à la fois vrai et à la fois faux. C'est ce que vous dites.
Exactement. Ouais. Mais forcément, forcément. On sait très pertinemment que ce que nous disons aujourd'hui, une partie est fausse. Parce qu'elle va être infirmée.
C'est intéressant. Sur la vérité en science, cette notion, elle est très importante. Sophie Bécherel.
Oui, je le disais, vous avez de tout temps mené une carrière professionnelle, enfin votre carrière d'astrophysicien, et puis ce désir de partager avec les autres. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement, ce compagnonnage avec un public qui n'a pas votre connaissance
Mais ça apporte énormément. Je pense que c'est vraiment pas du tout... C'est que, en fait, c'est dans les deux sens. Vous comprenez bien que quand les gens viennent vous poser des questions, certaines de leurs questions sont extrêmement pertinentes et vous obligent à repenser vous-même ce que vous pensez. Et donc cet aller-retour, je pense que c'est ça qui nous pousse à parler, parce que nous vivons dans un monde clos. On est d'abord trop culturo-centré.
Vous, les chercheurs.
Les chercheurs, bien sûr. Et en fait, qu'on le veuille ou non, on reste dans notre tour d'ivoire. La plupart du temps, on présente ce Big Bang comme quelque chose de très complexe, peut-être comme les échecs. C'est-à-dire, on ne peut être que astrophysicien pour comprendre l'univers. C'est pas du tout vrai. On peut raconter ça de façon simple, avec des mots simples. Et en retour, le public vous renvoie ces questions qui, tout d'un coup, sont d'une luminosité. Mais j'ai pas pensé à ça. Et vous retournez à votre échoppe, votre établi. Et moi, ça m'a apporté, en tout cas, un gros recul par rapport à ma discipline. C'est pour ça qu'en général, par rapport à certains de mes collègues, je trouve que leur vision est trop réduite parce qu'ils ont toujours été dans le même cercle. Prenons le Big Bang. Moi, je ne suis pas tout à fait persuadé, même pas du tout persuadé que ça soit la bonne théorie de l'univers. Mais si vous voulez, si vous dites ça aujourd'hui, ben 99%
c'est de
voilà. Ça y est, je suis effectivement. Mais c'est quand même ça, c'est ce recul qui vous permet. Alors, du coup, vous utilisez ça aussi dans votre démarche scientifique.
Allez, une dernière question, Sophie.
Non, alors ce spectacle donc qui sera joué donc deux jours, vous le couplez avec une exposition à destination des scolaires.
Exactement.
C'est tout un travail au fond.
Voilà, exactement. Et je dois dire que c'est parti d'un appel d'offres de la Diagonale Paris-Saclay et soutenu aussi par la région Île-de-France sur une association Arrêt Science. Et on a répondu à cet appel d'offres et ça va nous permettre de développer parallèlement au spectacle cette exposition qui va être sous forme assez légère, couplé avec les vidéos qui ont été faites par le spectacle et pourront être distribuées et donner lieu à des débats. On pourra aller effectivement présenter l'exposition. Et c'est pour ça qu'elle a été faite aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le mélange culturel se fait en France aussi et partout ailleurs. Et on a trop peu d'écho de ce qui est venu de l'extérieur. Et en astronomie, je pense que, par exemple, Copernic, il n'a eu l'idée de mettre le Soleil au centre que parce que il a eu des travaux des écrivains arabes qui eux-mêmes ont été influencés par les Chinois, les Chinois ont obtenu leurs mathématiques par les Indiens. Et ça s'écrit, hein, c'est tout ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui encore, il faut effectivement laisser la place à tout ce qui nous est venu de l'extérieur.
Alors donc, il faut aller vous voir demain et dimanche.
Demain et dimanche.
C'est deux jours seulement.
Et oui, voilà, parce que c'est un peu expérimental.
Oui, le spectacle pourrait être rejoué à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
On va présenter plus en forme de conférence, parce qu'on n'aura pas les moyens du spectacle qu'on a à la cartoucherie. Mais ce sera le 3 novembre, dans les Rencontres du Ciel et de l'Espace. Et ensuite, après, certains nous ont déjà contactés pour aller peut-être présenter ça en province. Mais comme moi, je ne suis pas un comédien professionnel, je ne peux pas en faire mon métier. Vraiment.
Bon, en tout cas, c'est demain et dimanche au Théâtre du Soleil, à la cartoucherie dans le 12e.
Exactement, à 20h le samedi.
20h30 dimanche et à 16h dimanche.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Bonnet-Bidot. On met toutes les infos sur le site de La Tête au Carré.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà. Après tant d'années. C'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi alors que les autres te trouvent.
trop laide. Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Avec Césaria, c'était Stromae.
La tête au carré, le club.
Dernier invité de ce club, Michel Chauvet, agronome, ethnobotaniste, et cette encyclopédie des plantes alimentaires que vous publiez, c'est aux éditions Belin. 700 espèces du monde entier, 1700 dessins, c'est un travail, c'est une somme hein, de travail justement, et c'est d'ailleurs le travail de... Pas toute votre vie, mais enfin quand même, vous y avez passé deux décennies. Hein.
Disons que voilà, j'ai mis 20 ans à l'écrire quand et même. Ça a demandé la collaboration d'une quinzaine au moins d'illustrateurs, ça a été vraiment toute une aventure. Une aventure aussi éditoriale, puisque très peu d'éditeurs maintenant acceptent de publier des ouvrages de cette importance. Donc effectivement, je peux dire que c'est un événement.
Absolument, et c'est pour ça qu'on voulait en parler avec vous cet après-midi, pour mettre la lumière sur ce travail. Avec ces plantes que nous mangeons, qui sont cultivées, la façon aussi de les reconnaître
Oui, alors vous avez dit 700 espèces du monde entier. Oui, elles viennent du monde entier, mais je n'ai retenu que les espèces que l'on pouvait se procurer en Europe.
Oui.
Hein, alors qu'elles soient sauvages, de cueillette ou autre, ou qu'elles soient cultivées. Et par ailleurs, oui, j'ai fait l'inventaire, je passe mon temps, chaque fois que je vois un marché ou un supermarché, je regarde tous les produits qu'il y a, ceux que je ne connais pas, je les achète et je les goûte. Donc j'ai fait l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans les épiceries chinoises, indiennes, des Caraïbes.
Et on en découvre encore beaucoup des plantes alimentaires comme ça?
J'en découvre de nouvelles tous les jours. Ouais. Depuis l'apparition de mon livre, j'en ai encore découvert deux.
Et vous vous dites, mais je vais être obligé de faire un tome 2 alors déjà, parce qu'il y a tellement de choses.
Oui, bah écoutez, ça on verra, si le livre se vend bien, on pourra penser à une, et si je suis encore de ce monde, à une deuxième édition. Autrement, bon, j'ai créé un site web où là je peux parler de toutes les plantes que je veux, indépendamment de leur importance.
Quel est le nom de ce site?
Plant Use.
Voilà, on le mettra sur le site de la Tête au Carré. Fruits, légumes, plantes oléagineuses, céréales, tubercules, plantes aromatiques, épices, champignons, algues. Bah, tout ça rentre justement dans...
Voilà, bah, disons que j'ai pris... les champignons ne sont pas officiellement des plantes hein, pour les biologistes, mais pour l'ethnobotaniste, on les trouve dans les rayons des légumes. Donc pour moi, ce sont des plantes.
Ouais, bon. On va écouter la voix de quelqu'un que vous connaissez. C'est Pierre Liotagui, ethnobotaniste lui aussi. Et on l'écouter justement. Au micro de France Culture en 1994, c'est une promenade dans les rues d'un village de Haute-Provence.
Que voyons-nous qui retiennent votre attention?
Certaines plantes qui sont fréquentes dans les villages, comme le 130, le lilas d'Espagne qu'on voit ici, qui est une plante voisine des valérianes, est consommée ici dans la région à l'état jeune, dans les salades. On mange les très jeunes rosettes de feuilles dans les salades. Enfin, on les mangeait en tout cas, ça fait partie des nombreuses plantes qui entraient dans l'alimentation traditionnelle à base de plantes sauvages, qui étaient dans les sociétés anciennes une façon de pallier le manque de légumes verts à la fin de l'hiver, en tout cas au moment où il fallait faire le joint entre les réserves d'hiver et puis les nouvelles productions agricoles.
Les ronces.
Oui, une plante bien sûr très, très commune partout, une plante importante dans la botanique européenne, parce que d'une part, bon, c'est un aliment bien connu par les murs de ronces, aliment. Depuis toujours des sociétés en Europe. Aussi d'ailleurs, ce qu'on sait moins, c'est que la plante est également alimentaire par les jeunes pousses qui ont été mangées en temps de disette dans beaucoup de régions et qu'ils sont encore en Ligurie, en la région niçoise, où on la voit entrer quelquefois encore dans les soupes de printemps, qui sont des soupes d'ailleurs à caractère dépuratif qui mêlent tout un tas de jeunes herbes en France et dans beaucoup de régions d'Europe. Ici tout spécialement.
Voilà, Michel Chauvet, les plantes en période de disette, ben ça c'est intéressant aussi, effectivement, parce qu'on voit que les consommations changent aussi selon les époques.
Oui, il faut tout de suite dire que dans l'histoire, hélas, il y avait souvent des disettes. Hein, donc la mémoire de l'intérêt de l'usage de toutes ces plantes est restée très vivace hein, jusqu'à nos jours.
Ouais.
Alors d'ailleurs, à propos de Liotagui, je voudrais signaler qu'il a rassemblé les résultats de nombreuses enquêtes en Haute-Provence, dans un livre qui s'appelle tout simplement Badasson,
ouais,
aux éditions Actes Sud. Donc c'est un livre un peu technique, mais qui est fourmille de données.
En tout cas, votre encyclopédie, vous, chez Belin, c'est une enquête aussi. On peut aussi le présenter comme ça, hein, parce que on parlait tout à l'heure justement de ces cultures du monde. On voyage énormément, on part partout, et c'est vraiment une immersion à chaque fois aussi auprès des peuples qui consomment ces plantes.
Oui, enfin, je n'ai pas nécessairement été dans tous les pays dont les plantes sont originaires, mais disons que ça, l'écriture pour moi a représenté à chaque fois, c'était une nouvelle, chaque plante c'était une nouvelle recherche,
oui,
dans les sources aussi bien d'historiens, d'agronomes, de généticiens, de linguistes, c'est des sources très diversifiées pour arriver surtout à établir quelles étaient les bonnes données, parce que si on compare deux bouquins sur les plantes, on va constater qu'ils disent souvent des choses différentes, donc je tenais absolument, par souci scientifique, à savoir quelle était la bonne version.
Sophie Becherel.
Je le découvre là, oui, en le feuilletant, et alors je suis frappée par la beauté des dessins. Vous parliez de plusieurs illustrateurs, on voit bien les différents styles, c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous-même vous avez dessiné certaines de ces plantes.
Non, hélas, moi je ne suis pas dessinateur à ce point, mais je suis effectivement ravi du travail qu'ont fait les illustrateurs. Je vous dis, il y en a plus d'une quinzaine qui ont collaboré de façon assez abondante, puisqu'au total, il y a 1700 dessins, dont 1000 en couleur.
Et on se dit que leur souci, c'est d'être le plus proche possible de la réalité. Pourtant, je trouve qu'il y a leur style. Mmh. Il y a de l'art.
Oui. Ça m'a amené d'ailleurs à beaucoup réfléchir sur l'histoire de l'iconographie au cours des temps. Mais là, ils ont... Non, le livre, bien entendu, sa qualité tient au texte, mais elle tient encore plus aux illustrations, parce que c'est ce que le lecteur voit en premier. Et enfin, elle tient aussi à la mise en page. J'avoue que je suis très content de la mise en page qui a été faite par Belin.
Alors, il n'y a pas d'indication nutritionnelle d'ailleurs, hein. Ça, c'est délibéré ?
Non, alors effectivement, c'est délibéré. Alors, je m'en explique dans l'introduction. Oui. Parce que où je dis que je suis pas très compétent dans les questions nutritionnelles, ou en tout cas suffisamment compétent pour savoir qu'il vaut mieux être prudent. Hein? Donc par rapport,
c'est le scientifique qui parle là aussi. Hein?
Oui, non, parce que si vous voulez, la plupart des plantes contiennent de la vitamine C, contiennent des glucides, des lipides, des protéines. Je dirais que pour moi la seule indication nutritionnelle que j'aurais envie de donner,
oui,
c'est de dire le plus diversifié possible, comme ça après. A priori, oui, vous n'aurez de carence dans aucun élément.
C'est bien, c'est une bonne règle. Tiens, on va retenir ça, effectivement. Une des plantes les plus controversées, alors moi j'adore cette plante, enfin ce fruit plus précisément, c'est le durian.
Ah.
Parlez-nous de ce roi des fruits qui pue. Hein, c'est une épouvante quand même, ce fruit. Hein.
Oui, d'ailleurs, quand
à telle époque, il est interdit dans certains hôtels.
Il est interdit dans des compagnies aériennes. Et
Asie.
Même, il m'est arrivé d'aller à Jakarta, en Indonésie, donc, et mes collègues néerlandais m'ont dit, ah ben Michel, tiens, viens, si tu veux, on va aller manger du durian. Et j'ai dit, c'est où? Il dit, ah ben c'est dans la rue. Parce qu'il y a des petites bicoques qui ont été construites, mais les Indonésiens eux-mêmes,
ouais,
n'introduisent pas le durian chez eux,
c'est
mais vont le manger dans la rue.
C'est une odeur de quoi d'ailleurs, s'il fallait la décrire? C'est un espèce de mélange
écoutez,
entre
ça dépend,
du vomi, de la chaussette.
Ça dépend des appréciations. Il y en a qui ont parlé d'oignons pourris, d'autres de fumier, d'autres, c'est assez spécial.
Et pourtant, c'est un goût de vanille.
Alors, c'est-à-dire que la texture en bouche est crémeuse et excellente. Hein, mais c'est vrai que c'est...
Ouais.
Mais alors, quand on va dans les épiceries chinoises au moment de la saison,
on
voit les Asiatiques se précipiter là-dessus. C'est vraiment une addiction. Hein, et les vendeurs distinguent, c'est comme les melons, hein, y a les bons et les moins bons.
Ouais.
Et donc, ils mettent des petits bouts de plastique de couleur pour distinguer les bons qui vendent plus cher et les autres.
Alors justement, il y a des fruits, il y a des plantes qui plaisent à certaines cultures et d'autres pas, ou qui sont des échecs en France, par exemple, alors que chez les Chinois, ça fonctionne très très bien. Il y a un certain nombre de fruits, la poire nashi, c'est ça?
Oui.
Que vous citez?
Disons que là, j'ai eu une réflexion, parce que les producteurs français de fruits l'ont introduit. On a essayé de promouvoir le nashi en Europe et honnêtement ça n'a pas vraiment pris, parce qu'en fait le nashi ça ressemble, c'est une poire qui ressemble à une pomme si vous voulez, pour faire bref, et c'est croquant, c'est charnu, c'est juteux, pas de problème, mais ça n'a pratiquement aucun goût.
Oui, ça n'a pas d'intérêt.
Pour un Européen, parce qu'un Européen exige que chaque constituant d'un plat et du goût. Alors que pour les Asiatiques, ils jouent par c'est des oppositions ouais. de, par exemple, des oppositions de texture, de saveur et autres, et le nashi a tout à fait sa place. D'ailleurs, on peut le mettre dans une salade de fruits, ça convient très bien.
Jean-Marc Bonnet-Bideau, est-ce que vous avez déjà mangé de la graine de baobab?
Non, jamais.
Et Sophie non plus, vous qui êtes allée souvent en Afrique, ben pourtant ça se mange.
Ben oui, tout à fait. J'en ai acheté au Kenya, donc j'ai eu la
ça
confirmation.
Ça se mange énormément hein, en Afrique.
Oui, j'ai eu la confirmation parce que j'essaye à chaque fois de distinguer ce qui fait l'objet d'une consommation anecdotique quelque part. Évidemment, on trouve toujours des gens pour manger un peu de n'importe quoi, mais ce qui fait ailleurs l'occasion vraiment d'une production commerciale importante.
On pourrait apprendre tout ça dans cette encyclopédie des plantes alimentaires, 700 espèces du monde entier, avec ses dessins magnifiques. Et c'est aux éditions Belin. Et bravo pour ce travail de 20 ans, Michel Chauvet. Allez, merci. On passe à l'agenda du week-end. Et les idées de sortie avec vous, Sophie, pour terminer.
Ce soir, c'est la nuit européenne des chercheurs.
Ah mais oui, c'est vrai.
Une nuit pour mille et une histoires, c'est le thème de cette année, la 14e édition. Une nuit, donc une seule, pendant laquelle les chercheuses et les chercheurs vont vous raconter leur vie, leur histoire. Comment ils sont venus à la science, comment ils la vivent, expérience magique ou titanesque, éprouvante ou stimulante, avec qui ils travaillent, comment, pourquoi. La magie de leur métier, c'est au travers de récits différents, dans des lieux parfois insolites, avec une ambiance spécialement conçue pour vous, qu'ils vous l'exposent. Alors sous forme d'anecdotes, de récits inspirés de la littérature, d'histoires drôles, d'énigmes, le jeu du vrai du faux, il y a tout un tas de choses. Ça se passe donc dans plusieurs villes européennes et 12 en France. Je vais vous donner la liste. Albi, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Le Mans, Limoges, Marseille, Paris, Toulouse et Saint-Denis de la Réunion.
Il y a un site internet qui est très bien fait.
Il y a un site internet, on vous mettra le lien. Ouais. Alors quelques exemples à Marseille. Par exemple, un speed searching sur le principe du speed dating. Vous vous asseyez à une table où se trouve une chercheuse ou un chercheur et vous avez 8 minutes pour dialoguer avec lui. Le gong retentit, vous devez changer de table et puis vous essayez quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être que ça peut susciter des vocations. Il y a aussi un parcours immersif.
Pas pour se marier avec le chercheur ou la
non,
chercheuse.
Non, ça n'est pas pour ça, Mathieu.
C'est juste pour la science.
Un coup de foudre n'est pas exclu. Un parcours immersif, inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, auquel participent donc des scientifiques. Alors, aux visiteurs, on va demander de franchir les étapes une à une. C'est une autre forme de récit de la recherche. Alors, à Besançon, c'est l'histoire dont vous êtes le héros. À vous d'écrire l'histoire. On vous transforme en apprenti chercheur, avec des expériences à faire, des choix scientifiques à prendre. Et puis voilà, on voit si vous gagnez la partie. Attention, s'il y a le game over, c'est pareil, c'est que vous êtes trompé. Il y a aussi donc un bureau des désinformations, ce qui n'est pas inintéressant au moment où on parle pas mal des fake news. Alors à Albi, c'est surtout des histoires, toujours, mais des histoires courtes. Alors on peut revivre l'expérience live de ma thèse en 180 secondes, dont la finale internationale avait lieu hier soir à Lausanne. Alors si vous ne l'avez jamais vécu, c'est extraordinaire, parce qu'en 3 minutes, donc un étudiant qui a fait une thèse qui a duré minimum 3 ans, doit avec brio, rythme, humour si possible, nous résumer le sujet sur lequel ils travaillent. Tous ces jeunes ne manquent pas d'humour ni de courage. Et toujours en format court, des conférences flash, des mini-conférences de 10 à 20 minutes de chercheurs. Enfin, à Limoges, une expérience qui, à mon avis, doit être super rigolote, qui est menée avec l'appui de l'association Cortex Circus, spécialisée en médiation scientifique. Ça s'appelle le bouche à oreille. Alors, un scientifique vous parle de son histoire, son parcours, et ensuite, vous devez la restituer. Ce que vous en avez retenu.
L'exercice de mémoire.
Oui, et puis les mots un peu compliqués que vous avez peut-être interprétés.
Très bien, c'est drôle, ça. Oui. C'est bien. Est-ce que vous devrait le faire à la radio, ça, c'est bien.
Est-ce que vous avez tout compris, réussi à vous réapproprier sa discipline? À mon avis, c'est très drôle. Voilà.
Et l'agenda est sur le site.
Sur le site de l'émission.
Merci beaucoup à tous. Passez un très très bon week-end. Merci. Ainsi s'achève notre club des Têtes au Carré. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique. Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Et puis dans un instant, ce sera Fabrice Drouel avec Affaires sensibles, la fiction du vendredi.